Je vais commencer non pas par un test pour rentrer à la NASA, nous avons déjà trois représentants ce matin avec nous, mais un test de culture générale. Est-ce que vous êtes prêts? C'est prêt, Chana? Si je vous pose la question, si je vous dis être ou ne pas être, vous me répondez, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Plus compliqué, bon voilà, ça va, qui l'a écrit? En quelle année? J'avoue, s'il n'y avait pas Wikipédia, j'aurais pas eu l'info. 1603. Shakespeare, en 1603, dans une pièce Hamlet, pose cette question. Être ou ne pas être, telle est la question. Et sachez que ce matin, c'est Shakespeare qui va nous aider à réfléchir à Galates, chapitre 2. Rien que moins que ça, on a l'honneur d'avoir Shakespeare qui va nous faire réfléchir à Galates 2. Et avec Baptiste, nous avons commencé il y a quelques semaines une série sur l'épître aux Galates, une lettre donc écrite par Paul à pas une église mais une ensemble d'églises qui sont en Galatie, donc c'est la Turquie actuelle. Et donc c'est plein d'églises toutes neuves que la plupart, souvenez-vous, Paul avait créées, mais des églises où il y a quand même des petits problèmes. Et d'ailleurs, Baptiste, on l'avait vu avec il y a trois semaines avec le chapitre 1, l'épître aux Galates est la seule épître qui commence sans remerciement. D'habitude, on a toujours le droit à un petit peu de « et je bénis l'Éternel, est-ce que vous allez bien ?» Et là, dans Galates, ça commence assez sévèrement. Et l'apôtre Paul, sans trop dire à ce moment-là, en Galates 1, il n'avait pas encore trop dit où était le problème, mais il avait commencé un peu en tapant du poing sur la table, et il avait dit « il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. » Mais à ce moment-là, il n'avait pas trop encore dit pourquoi il commençait sa lettre de manière aussi sévère. Et on va voir qu'aujourd'hui, en fait, voilà, c'est des histoires que ces églises, elles étaient toutes neuves, mais elles étaient tiraillées entre plein de questions, en particulier autour de la question entre juifs et non-juifs. Est-ce entre les ex-juifs et entre les ex-non-juifs? Est-ce que oui ou non, il faut continuer à respecter la loi? Quelle est l'importance de Christ? Et toutes des questions qui tiraillaient l'église, les églises de Galatie. Et c'est des questions qui sont encore pertinentes en 2022. Et donc au menu ce matin, je vous propose donc un peu de poésie avec Shakespeare. Je vous propose un peu de philosophie avec Platon et un peu de cinéma avec James Bond. Ça va, comme ça, il y en a à peu près pour tous les niveaux. Est-ce que ça présente? Hop là. Donc Shakespeare. Et on va commencer donc avec cette première partie, avec un peu de poésie, être ou ne pas être, et précisément, faut-il être comme les juifs? Faut-il ne pas être comme les juifs? Faut-il être comme les non-juifs? Ou faut-il ne pas être comme les non-juifs? Et donc je vous invite à lire les quatre premiers versets pour commencer, les quatre premiers versets de Galates, chapitre 2. Galates chapitre 2, et je lis dans la version second 21. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et j'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation, et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou l'avoir couru pour rien. Verset 3, or, Tite, qui était avec moi, et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'attention de nous asservir. On va lire plus tard après, mais ce que l'on voit déjà, ce que l'on comprend, c'est qu'après plusieurs années de ministère, Paul monte à Jérusalem, vous l'avez compris, Tite, il est d'origine grecque, donc il n'est pas juif, donc il n'a pas été circoncis à la naissance. Et certains prétendus frères poussent Tite à se faire circoncire. Et donc on comprend qu'ils ont refusé. Tite a refusé, Paul a refusé. Est-ce qu'ils ont eu raison, à votre avis? Est-ce qu'ils ont eu raison de refuser la circoncision? Après tout, c'est un commandement qu'on trouve dans Genèse 17, dans Lévitique 12, c'est le signe par excellence de l'Ancienne Alliance. C'est Dieu qui l'a demandé à son peuple. Alors, est-ce que Paul et Tite ont bien fait de s'opposer à ses frères. Est-ce que les non-juifs doivent-ils être comme les juifs? Ou alors, est-ce que les non-juifs doivent ne pas être comme les juifs? Première question. Deuxième situation compliquée que Paul expérimente, a expérimenté, et là on lit à partir du verset 11, et je lis à partir du verset 11, deuxième situation où Paul est confronté à cette question, être ou ne pas être comme les juifs ou comme les non-juifs. Et je lis à partir du verset 11. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Et les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Un peu compliqué, mais vous comprenez la tension qu'il y a dans l'Église primitive face à ces situations. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait toujours eu une très très forte distinction entre Israël et les païens, entre les juifs et les non-juifs. Impossible de faire un repas en commun. Et même s'il y avait eu un repas en commun, je ne vous dis pas la difficulté de trouver le menu. C'est pire qu'un mariage, hein, avant d'avoir un menu qui satisfasse tout le monde. Et Pierre est un peu coincé dans cette tension. Il ne sait pas trop quoi faire et il tombe dans le piège de l'hypocrisie. Quand il est tout seul, il mange avec les non-juifs, mais quand il y a quelqu'un qui arrive, hop, oh non, je les connais pas, non. Un peu comme un enfant qui, quand les parents sont pas là, qui fait le bazar complet, et quand les parents arrivent, non, tout va bien, j'ai rien, j'ai pas mis le bazar. Exactement comme ça. Et Paul réprimande Pierre publiquement. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien fait? Les juifs peuvent-ils être comme les non-juifs? Être comme les non-juifs ou ne pas être comme les non-juifs? Je dis que Shakespeare allait nous faire réfléchir ce matin. Face à toutes ces questions, faut-il être comme les juifs? À qui devons-nous ressembler? Devons-nous ressembler aux personnes? Quelqu'un qui serait nouveau chrétien parmi nous, à qui doit-il ressembler? Aux juifs? Aux païens? Aux non-juifs? Aux religieux? À qui devons-nous ressembler quand on se convertit à Dieu? Aujourd'hui, on est dans une société qu'on appelle post-moderne. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa vérité, l'essentiel c'est d'être convaincu. Toi tu penses que le bleu est rouge, c'est l'essentiel que tu sois convaincu. Toi tu penses que le vert est gris, l'essentiel c'est que tu sois convaincu. Toi tu penses que Dieu est un arbre, c'est très bien. Toi tu penses que les nuages sont... c'est très bien. Aujourd'hui, on est dans une société où chacun fait ce qu'il veut, l'essentiel c'est d'être convaincu. Alors est-ce que sur ces questions-là, juif, non-juif, est-ce que je dois me faire circoncire, pas circoncire, manger avec les non-juifs, manger avec les juifs? Est-ce que sur cette question-là, c'est chacun fait un peu comme il le souhaite, et l'essentiel, c'est d'être convaincu dans son cœur? Est-ce que c'est ça? Non. Chapitre 1, qu'est-ce que Paul avait dit? Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas 40. Il n'y a qu'un seul évangile. Donc, face à ces questions-là, il doit avoir une seule réponse. Pas 40 réponses, s'il n'y a qu'un seul évangile. Que dit l'évangile face à ces questions? Être comme les juifs, ne pas être comme les juifs, être comme les non-juifs, ne pas être, être ou ne pas être, telle est la question. Et finit la poésie, de Shakespeare, désormais un peu de philosophie, les amis. Avec Platon, croire et savoir. Les philosophes, tels Platon, ont beaucoup discuté et réfléchi à la différence entre croire et savoir. J'ai relu tout Platon cette semaine pour être prêt avec vous. Je sais pas si vous vous rendez compte le travail que ça m'a pris. Donc, de ce que j'ai compris de toutes les œuvres que j'ai lues, c'est qu'il y a une vraie, voilà, ils ont beaucoup philosophé sur la différence entre croire quelque chose de personnel non vérifiable, savoir quelque chose qui serait certain et qu'un autre pourrait vérifier. Voilà, ils ont beaucoup philosophé. Mais dans le passage qu'on va lire dans un instant, versets 15 et 16 de Galates 2, on va voir que Paul affirme deux choses. Il sait quelque chose et il croit quelque chose. Les deux. Il en est absolument certain. Certain de quoi? Que c'est par la foi qu'il est justifié. Pas de doute. Il le sait, il le croit. Et c'est les versets 15 et 16. C'est les versets 15 et 16. Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la croix que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de Jésus-Christ et non sur les œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. C'est un peu lourd, un peu redondant, mais c'est pour dire la certitude que Paul a, il le sait, il le croit, il en est certain. Pas l'ombre d'un doute. Il est certain de quoi? Qu'il est déclaré juste, qu'il est justifié. Alors ça, c'est un terme un peu, voilà, qu'on n'utilise pas au quotidien, hein, ça, justifié. Comment, qu'est-ce que ça peut dire? C'est un terme juridique, officiel. Quand le maire vous déclare marié, une parole qui dit désormais ces deux personnes seront, au regard de la loi, au regard de tout le monde, seront considérées comme mariées. Quand Farah avait reçu la nationalité française, tu as été déclaré français, je me souviens, c'est il y a quelques années, tu avais eu ton papier. Tu as été déclaré, quand on est déclaré libre, quand on est déclaré juste, ça ne veut pas dire que la personne en question, elle est 100% tout ce qu'elle a fait, elle a été parfaitement juste, elle a parfaitement nickel. Mais c'est que désormais, elle sera considérée, elle sera déclarée, elle sera vue, elle sera considérée comme étant juste. Considérée comme juste. Et ça, Paul, il en est certain, il le sait, il le croit. Aucun doute. Il est certain de quoi? Que cela, cette fameuse déclaration de justification, ce n'est pas sur les œuvres de la loi qu'il aurait fait ou qu'il n'aurait pas fait. C'est pas comme si Dieu nous demandait notre CV, Et il verrait si oui ou non. Alors, Magali, est-ce qu'elle a coché ça? T'es d'accord? Non, il n'y a pas. C'est pas sur un CV ou sur le pourcentage des choses que l'on a réussi à faire. Analyse, à 80% presque, persévère, qui est presque 80%. Ou alors comme le code, comme le code que l'on passe, où on a droit qu'à deux erreurs, c'est ça, je crois. Et 5, voilà. Et si on a, il y a 40 questions, et si on fait plus de 5 erreurs, repasse. C'est pas comme ça. Il n'y a pas un pourcentage à vérifier. On aurait le droit à 5 boulettes dans notre vie. Mais la 6e, on est disqualifié. Souvenez-vous, voilà. Le nombre de fois, on était comme le bon samaritain. C'est pas ça que Dieu va compter. On l'a vu là, justement, la dernière fois, la semaine dernière, que la loi sert à montrer ce qui est bon, ce qui est juste. Elle sert à pousser notre confiance et à tester notre confiance, notre obéissance. Et elle sert à nous pousser à reconnaître notre imperfection. Mais aucunement, la loi ne sert à accorder le salut à ceux qui arriveraient, si seulement c'était possible, à ceux qui arriveraient à être à la hauteur et à faire 100% juste à l'examen. Donc Saint Paul, il en est certain, il le sait, aucun doute. Et si ce n'est pas par la loi, il est certain que ça, c'est, il le sait, il le croit, que c'est par la foi qu'il peut être désormais considéré, qu'il sera désormais considéré comme juste auprès de Dieu. Il sera considéré comme juste aux yeux de Dieu par sa foi en Jésus-Christ, par la confiance, par l'assurance, par la certitude de ce qu'a fait Dieu en Christ. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui. Et pour être précis, la foi en quoi? La foi dans la vie, la foi dans l'univers, la foi dans l'humanité, la foi dans l'amour. Vous savez, on entend ce genre de phrase un peu à l'eau de rose, hein. Non! Il est précis, Paul. C'est la foi en Jésus-Christ. Pas la foi dans l'humanité, vous ne savez pas, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Dieu le Père nous justifie par la foi qu'on met en lui, qui met dans son Fils Jésus-Christ. Des fois, vous verrez des passages où il dit, c'est la foi en Dieu qui sauve, et des fois, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Parce que c'est contradictoire. Ben non, évidemment, c'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. C'est bien ce que Jésus déclare lui-même quand il dit, moi et mon Père, nous ne faisons qu'un. Voilà pourquoi vous trouverez autant que c'est la foi en Dieu qui sauve, que c'est la foi en Jésus qui sauve. Alors, Paul ici, il ne dit pas tout. Comment la foi dans ce Jésus-Christ nous conduit à être considéré comme juste? Est-ce suffisant? Est-ce magique? Est-ce nouveau? Est-ce définitif? Par quel mécanisme? Tout ça, c'est Galates 3 qui en parlera. Donc, je garde un peu des billes pour la prochaine fois et j'en dis pas plus maintenant parce que sinon, je vais plus avoir rien à dire à la prochaine prédication. Galates 3. Mais en attendant, Paul, il affirme cela. Il le sait, il est certain, il le croit. Plus que Platon et Kant réunis, il sait que il croit cette vérité fondamentale de la justification par la foi en Jésus-Christ. Très bien. Très bien. Mais désormais, donc, cette fameuse loi, est-ce qu'elle est utile? Faut-il encore s'y conformer? Y a-t-on un intérêt à essayer de continuer à respecter les commandements de la loi? Et c'est la suite, et c'est ma troisième partie, et cette fois-ci, prenez garde à vous, c'est James Bond qui nous accompagne avec, un film de 1973, merci Wikipédia de nouveau, 1973, vivre et laisser mourir notre ancienne nature et vivre en Christ. Qui l'eût cru que James Bond rencontre Paul dans l'épître aux Galates. Et je lis donc les versets 17 à 21 de Galates 2. Mais si, en cherchant à être déclaré juste en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, parce que ça signifie que Christ serait un serviteur du péché? Certes, certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Quel intérêt a-t-on à revenir sous un régime de la loi? Aucun, dit Paul. Quel intérêt a-t-on de continuer à s'auto-évaluer sur les critères de la loi, sachant que celle-ci, elle nous déclarait coupable? Quel intérêt a-t-on? Aucun, déclare Paul. Verset 18, si je me remets sous le joug de la loi, ben je me redéclare coupable, alors que verset 15, ben entre-temps, j'ai été déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Alors, est-ce que je suis coupable ou juste dans ces cas-là? Quel intérêt y a-t-il à revenir sous un système qui nous disqualifie? Aucun. Il faut laisser mourir notre ancienne personne, notre ancienne nature. Il faut laisser mourir notre ancienne nature. Et au lieu de donner une explication supplémentaire, je vais donner une illustration. Et justement, avec Charles, représentant de la NASA, ici, et avec les deux qui sont partis. J'avais pensé faire l'illustration avec l'Agence Européenne Spatiale, l'ESA, mais finalement, la NASA ira très bien, c'est la version américaine. Peu importe. Qui d'entre vous a déjà essayé de passer des tests pour devenir astronaute? Sachez qu'en tout cas, en Europe, alors je pense qu'aux États-Unis c'est encore plus compliqué, mais en Europe, avec l'Agence Européenne Spatiale, chaque année, ou en tout cas quand ils font des appels à candidature, il y a environ 22 000 candidatures, et dans le meilleur des cas, il y a 3 ou 4 candidats pour à la fin avoir un astronaute. Donc là, en termes de l'examen de concours d'entrée, on est pas mal, hein, 22 000 pour un, on est pas mal. Et il y a de nombreux tests. Alors il y a des tests de sport, on va vous faire courir, nager, porter, on va vérifier. Vous allez devoir faire de la logique, des tests de logique en chronométré, un peu des tests psychologiques, des tests de communication, il faut parler X langues. Vous devez être incollable en sciences, en aérodynamique, en thermodynamique. Vous devez être capable de faire des calculs, on vous teste votre résistance à l'effort, on vous met dans des centrifugeuses et en même temps vous devez répondre à des calculs à l'oral, en anglais, à quelqu'un qui vous parle pour être capable, pour voir si vous êtes pris dans une truc, vous serez capable de réparer la machine en même temps que tomber dans l'atmosphère. Et tout ça, bien sûr, en restant calme et parfaitement sociable, et en insultant jamais son collègue astronaute à côté. Bon, je pense qu'on serait à peu près tous assez rapidement éliminés. Alors, apparemment, voilà, il y a Thomas Pesquet, voilà, on en entend un peu parler, qui, lui, a réussi, mais bon, je pense que... À part Charles, on aurait tous raté Non, Isaïe, Néman et Charles, à part aux trois, nous, on aurait tous raté. Mais imaginez, alors que pourtant vous ne le méritez pas. Imaginez, alors que pourtant vous ne le méritez pas, mais que vous soyez déclaré astronaute. Imaginons que vous soyez déclaré astronaute. Ça y est, c'est fait. Vous avez dans votre badge qui bip à l'entrée de la NASA, là, et c'est écrit astronaute. Pas candidat astronaute, c'est écrit astronaute. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Est-ce que vous allez avoir envie de revenir en arrière pour essayer de vous requalifier avec les épreuves de qualification? Est-ce que vous allez essayer de vous réinscrire, de repasser les examens avec les 22 000 candidats pour essayer de devenir astronaute? Un, ça sert à rien, vous l'êtes déjà. Et deux, la seule chose que ça montrerait au monde entier, c'est que vous êtes nul en sport, nul en calcul et incapable de rester calme dans une centrifugeuse tout en résolvant des problèmes de logique. Donc revenir aux épreuves de qualification, un, ça vous servirait à rien, et deux, ça vous desservirait parce que ça crierait au monde entier, ça vous montrerait en fait que vous êtes complètement inapte à ça. Aucun intérêt à essayer de se requalifier à une épreuve à laquelle on est déjà qualifié. C'est comme alors là j'ai pris l'exemple de la NASA, mais ça pourrait être comme les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Si vous êtes qualifié, si vous avez vous recevez votre courrier, c'est bon, on vous attend pour la finale du 100 mètres. Est-ce que vous allez essayer de vous réinscrire en participant au cross départemental de Cavaillon pour refranchir les échelons? Ben non, ça sert à rien. La seule chose qu'on va voir, c'est que au bout de 100 mètres, vous allez en prendre côté et vous voyez, la loi, revenir sous la loi qui nous déclarait coupable, il n'y a aucun intérêt puisqu'on a été déclaré juste. Un peu comme, on prend les exemples, des exemples, il y en a mille. Il y a le code, on a passé du permis de conduire, on a tous le permis. Si aujourd'hui on devait repasser le code des examens avec les fameuses 35 questions, qui a envie de repasser le code et s'il le loupe, ben il perd son permis. Qui d'entre vous a envie d'aller s'inscrire? Personne. Vous savez très bien que par vous-même, vous êtes incapable d'avoir quoi. C'est trop loin. Moi-même, je m'en souviens plus. Je l'ai su à l'époque, mais aujourd'hui, vous voyez l'image. Alors, mon image s'arrête là parce qu'évidemment que si je suis nul en course à pied, ben les Jeux Olympiques de 2024 vont très mal se passer pour moi. Et si je suis nul en logique et en communication, bah dans la navette spatiale, ça va mal se passer pour moi. Mais heureusement, ce n'est pas parce qu'on était nul au regard de la loi que ça va faire de nous des mauvais chrétiens. Donc voilà, l'illustration de la qualification s'arrête là. Mais face aux exigences de la loi, nous avons été déclarés inaptes, coupables. Or, nous avons été déclarés qualifiés juste par notre foi en Jésus-Christ. Donc Paul répond, quel intérêt y a-t-il à se refrotter à cette loi? Quel intérêt? Aucun. Aucun intérêt, donc, à la circoncision. Ça, c'est pour Tite. Aucun intérêt au repas séparé avec les non-juifs. Ça, c'est pour Pierre. Et pour nous. En Corinthiens 8. Aucun intérêt, donc, à s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles. Ou pour nous, je dirais, je sais pas, de viande halale, aujourd'hui. Ou alors, aucun intérêt fondamentalement devant Dieu à s'imposer telle ou telle discipline de fer. Aucun intérêt fondamentalement devant Dieu à donner 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 100% de ses revenus à Dieu. Plus aucun intérêt à éviter telle ou telle personne. Plus aucun intérêt à venir à l'église tous les dimanches matins, comme si Dieu cochait, et celui qui avait fait suffisamment de dimanches dans l'année, c'est bon. Alors, toutes ces choses-là, certaines choses peuvent être bonnes, certaines choses peuvent être utiles, certaines disciplines sont nécessaires. Et ça, c'est Galates 5 et 6 qui va en parler. Mais en attendant, devant Dieu, fondamentalement, pour la manière dont Dieu nous regarde, on n'a aucun intérêt à essayer de ressembler à être comme les non-juifs ou être comme les juifs. Ce qui compte, c'est être ou ne pas être en Christ. Telle est la véritable question. Être ou ne pas être en Christ, c'est ça la question. C'est pas être comme les non-juifs, ou être comme les juifs qui compte. C'est être comme Christ. Telle est la question. Et justement, si vous êtes qualifié pour être astronaute, si vous êtes qualifié, donc vous n'avez plus les épreuves à passer, mais au contraire, vous pouvez pleinement vous projeter sur cette nouvelle carrière qui s'offre à vous, sur cette nouvelle vie, sur ce qui est devant vous. Et qu'est-ce qui est devant vous? C'est la vie avec Christ. C'est ça désormais qui compte. Et c'est le verset 20 qui le dit, et je le relis, c'est un des plus beaux versets de la Bible. C'est un des plus beaux versets de la Bible. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Un des plus beaux versets de la Bible. Deux choses à remarquer dans ce verset. C'est que notre ancien homme, notre ancienne personne, notre ancien homme, celui qui a été, celui que la loi avait déclaré coupable, celui qui a été éliminé aux épreuves de la NASA, celui qui a été éliminé aux épreuves des Jeux Olympiques de Paris, celui-là, il est mort avec Christ. Ça n'a rien laissé de le faire revivre. Celui-là, il est mort avec Christ. Le Paul Le Play, qui était rebelle à Dieu, le Paul Le Play qui voulait plaire à Dieu par ses propres forces, le Paul Le Play qui se croyait parfait, celui-là, il est mort. Il a été crucifié avec Christ. Comme si c'était Christ, ouais, crucifié avec Christ. Et à l'inverse, désormais, Christ vit en moi, vit en nous. Une nouvelle vie, différente, radicalement. Le maître à bord n'est plus le même. Première chose à remarquer. Deuxième chose, c'est Christ qui vit en nous, mais c'est pas pour autant qu'on est des robots. Paul va dire deux choses. Regardez, il dit, c'est Christ qui vit en moi, mais en même temps, ce que je vis, je décide de le vivre dans la foi au Fils de Dieu. On n'est pas de nous, être chrétien, ça ne veut pas dire être des robots que Christ commanderait. Non, nous-mêmes, Christ vit en nous, mais nous-mêmes, nous décidons de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Être ou ne pas être en Christ. Quelle est la question pour vous, pour nous? Et si vous voulez une définition de la vie chrétienne, plus belle image que celle de simplement de l'union que le croyant a avec Dieu en Christ. Ce passage, ça nous parle de ça. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui est uni à Dieu en Christ. Qui est uni avec Christ. Paul va le redire un peu plus longuement, et je cite que quelques versets dans Romains 6. Il y a le même raisonnement. Le raisonnement qu'on voit dans Galates, il y a à peu près le même en Romains 6. Et je lis quelques versets de Romains 6 et vous verrez la même idée. Laisser mourir notre ancienne nature et vivre en Christ. James Bond aussi est ici. Par la mort, Romains 6 verset 4, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous serons aussi vivants avec lui. Conclusion, verset 11, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Être ou ne pas être en Christ, c'est là notre défi. Quel est le maître à bord de votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire, être en lui? En termes d'application, je pense qu'au moment de réfléchir à nos, quand on doit réfléchir à nos priorités, quelles sont les priorités que je veux mettre dans mon agenda? Quelles sont les priorités que je veux mettre dans mes finances? Quelles sont les priorités que je veux mettre dans mon énergie? Peut-être qu'à ce moment-là aussi, je pense que l'union avec Christ a des conséquences. Quand je dois faire des choix de vie, des petits choix, des grands choix, quand il s'agit de s'engager pour servir les autres, pour servir l'Église, pour servir notre prochain, là aussi, si on est uni à Christ, ça aura une conséquence là-dedans. Quand je suis en lutte, quand je suis dans le dur, quand je suis dans le dans face à une tentation, quand je suis en galère, là aussi l'union avec Christ me permet de ne me considérer comme mort pour le péché et vivant en Dieu, en Jésus-Christ. Quel est le maître à bord de votre vie? Ce sera mon mot de conclusion. Ma conclusion sera seulement celle-ci. Mettez en pratique cela et profitez de cette nouvelle vie en Christ. Profitez-en. Vous êtes qualifiés. Christ et Christ vit en vous et vous pouvez vivre désormais dans la foi, dans le Fils de Dieu qui vous a aimé, qui s'est donné. Profitez-en. Ne perdez pas de temps à revenir aux épreuves de qualification de la NASA, des Jeux Olympiques ou du code ou je ne sais quoi. Profitez de cette nouvelle vie en Christ, puisque désormais vous êtes considéré comme juste par votre foi en Jésus-Christ. Profitez de cela. La question n'est pas d'être comme les non-juifs, la question n'est pas d'être comme les juifs, la question n'est pas d'être comme je ne sais qui. La question est d'être en Christ, comme Christ. Telle est la véritable question. Et notre invitation pour chacun d'entre nous ce matin. Alors plusieurs questions restent non résolues, et c'est la suite de l'épître aux Galates qui y répondra. Pourquoi donc cette fameuse foi en Christ sauve-t-elle? Depuis quand la foi sauve? À quoi bon alors la loi? Est-ce que c'est complètement inutile? Peut-on faire donc n'importe quoi? Que devons-nous faire alors? Toutes ces questions-là, c'est Galates 3, 4, 5, 6 qui vont y répondre, et on le garde pour les prochains mois. En attendant, je vous invite à la prière ensemble. Éternel, t'es face à tes exigences, face à ta loi, face à tes exigences, face à ta perfection, Seigneur, nous avons été déclarés effectivement coupables, inaptes. Mais par notre foi en toi, en Jésus-Christ, nous sommes considérés désormais comme justes, comme vivants. Quel mystère et quelle grâce tu nous as fait. Seigneur, donne-nous aujourd'hui de profiter, de vivre cette nouvelle vie pour laquelle tu nous as rachetés. Cette nouvelle vie unie en ton Fils, unie en toi. Seigneur, nous voulons, chacun d'entre nous, laisser, Seigneur, Christ, vivre en nous. Nous ne voulons plus être le maître à bord de nos vies. Nous voulons que tu sois le maître à bord, le pilote de nos vies. Montre-nous dans nos choix, dans nos priorités, dans nos engagements, dans nos luttes, dans nos galères, dans nos tentations. Montre-nous sur chaque aspect comment, Seigneur, effectivement, tu peux être ce maître à bord. Tu vis en nous, Seigneur, mais nous voulons vivre tout ce que nous vivons dans notre corps, tout ce que nous vivons ici-bas, tout ce que nous vivons dans notre chair, tout ce que nous vivons au quotidien. Nous voulons le vivre dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être en toi. Nous te remettons nos vies, nous te remettons nos familles, nous te remettons notre Église. Nous te remettons, Seigneur, nos proches aussi, qui puissent aussi découvrir toujours plus cette nouvelle vie à laquelle tu appelles chacun d'entre nous. Amen.